VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Diriek au micro, ravi de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique. Dans quelques instants, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Et nous ouvrons sur ces violences au Burundi. L'armée annonce que deux hommes ont été tués dans deux affrontements distincts avec des militaires dans les environs de la capitale Bujumbura. Pour le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Gaspard Baratouza, ce sont des malfaiteurs qui ne peuvent être qualifiés de rebelles. L'armée nie toute perte dans ses rangs. Plus sur le Burundi, dans Le Monde aujourd'hui. Aujourd'hui, dans à peu près une demi-heure. République démocratique du Congo, l'interdiction du documentaire « L'homme qui répare les femmes » continue de faire réagir. Cette fois-ci, c'est le représentant spécial de l'ONU en RDC qui monte au créneau. Pour Martin Kobler, l'interdiction du film consacré au combat du gynécologue Denis Mukwege en faveur de milliers de femmes violées est une atteinte inadmissible à la liberté d'expression. Lutte contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un dirigeant du groupe djihadiste Abu Obeida Youssef Al-Anabi figure désormais sur la liste noire des terroristes. Une liste faite par les États-Unis. Conséquence, les biens qu'il pourrait détenir aux États-Unis vont être gelés. Il est aussi interdit aux Américains de commercer avec ce djihadiste algérien, présenté comme le chef du conseil des notables d'ACMI et comme le directeur de communication. Au Nigeria, l'armée annonce la mise en liberté de 128 personnes arrêtées pour appartenance présumée à Boko Haram. Il faut dire que les organisations de défense des droits de l'homme accusent régulièrement l'armée nigériane d'arrestations et détentions arbitraires. Guerre en Somalie, les Chebabs disent détenir des soldats ougandais de l'AMISOM, la force de l'Union africaine. Ils sont en bonne santé, affirment les djihadistes. Kampala affirmait pourtant qu'aucun de ces militaires n'était porté disparu. Et c'est dans ce contexte que le département d'État a annoncé le début des opérations de la mission des États-Unis en Somalie. On fait le point avec Nathalie Barge. Un extrait, une bande sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir dans quelques instants si nous arrivons à résoudre nos problèmes techniques. On continue sur la crise politique en Guinée-Bissau. La Cour suprême de justice a déclaré...
La nouvelle mission reflète la poursuite des efforts américains en vue de normaliser les relations bilatérales depuis la reconnaissance du gouvernement fédéral de la Somalie le 17 janvier 2013. La mission des États-Unis en Somalie est basée au sein de l'ambassade des États-Unis à Nairobi au Kenya et sera dirigée par un chargé d'affaires jusqu'à ce que le président nomme et le Sénat confirme le prochain ambassadeur américain en Somalie. Le lancement de la mission américaine en Somalie est une nouvelle étape vers le rétablissement d'une présence diplomatique des États-Unis en Somalie. Comme annoncé par le secrétaire d'État John Kerry le 5 mai dernier lors de sa visite historique à Mogadiscio. Les autorités américaines vont continuer de voyager en Somalie pour mener des activités officielles si les conditions de sécurité le permettent, indique le porte-parole du département d'État John Kirby dans son communiqué.
Retour donc sur cette crise politique en Guinée-Bissau. La Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnelle la nomination du Premier ministre Bassirou Dia par décret présidentiel. Le nouveau chef du gouvernement a par ailleurs tenu une audience aujourd'hui avec le chef de l'État, José Mario Vaz.
L'information a été rendue officielle à la présidence de la République par le chef du gouvernement Bassirou Dia à sa sortie d'audience avec José Mario Vaz et qui a informé que les 8 juges conseillers de la Cour suprême qui exerçaient le rôle de la Cour constitutionnelle ont donné leur décision de déclarer inconstitutionnel le décret numéro 6/2015 du président bissau-guinéen José Mario Vaz qui avait nommé Bassirou Dia comme premier ministre. Bassirou Dia.
Comme la Cour suprême de justice a considéré inconstitutionnel le décret numéro 6/2015 qui m'a nommé comme Premier ministre. En conséquence de cette décision, je vais présenter une lettre de démission au poste de Premier ministre pour formaliser cette décision de demande de démission.
On rappelle qu'un groupe d'avocats contestant la nomination de Bassir Diallo le 20 août dernier avait déposé le 26 du même mois à la Cour suprême une ordonnance demandant d'examiner la constitutionnalité de la décision du chef de l'État de nommer le Premier ministre Bassir Diallo contre la volonté du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAGC, parti vainqueur des dernières élections législatives en Guinée-Bissau. Nouaman Kalibissau, VOA Afrique.
Conflit dans la région du Darfour au Soudan. Human Rights Watch accuse une force paramilitaire proche du gouvernement de Khartoum d'avoir tué et violé en série des civils.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Épidémie d'Ebola, voilà une semaine qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré en Guinée, une première depuis mars 2014, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Le point avec Michel Joseph.
Cela fait 7 jours qu'il n'y a pas eu de cas d'Ebola en Guinée, a annoncé le docteur Bruce Elwood, responsable de la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. La prudence reste toutefois de mise, car la période d'incubation du virus est de 21 jours. C'est la plus longue période enregistrée sans nouveau cas d'Ebola en Guinée depuis mars de l'an dernier. Pour Bruce Elwood, cela signifie que la maladie est de mieux en mieux contrôlée, et ce, malgré la saison des pluies, qui rend encore plus complexe la surveillance de l'épidémie, avec des routes presque impraticables dans la région. Partie en décembre 2013 du sud de la Guinée, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 300 morts pour plus de 28 100 cas. Un bilan sous-évalué de l'aveu même de l'OMS. L'OMS espère mettre un terme à l'épidémie d'ici fin 2015 et prépare actuellement avec les autorités des pays concernés la phase 3 de la réponse à cette crise sanitaire. Elle consiste notamment à contrôler les risques résiduels de réapparition de la maladie liée à la persistance du virus chez ceux qui ont survécu à la maladie.
Le chaos libyen perdure, les attentats se multiplient à travers le pays. Ce mercredi, une voiture piégée a explosé près d'une prison à Tripoli, où sont détenus un des fils du dictateur déchu et décédé Muammar Kadhafi, son fils Saïdi et des responsables de l'ancien régime libyen. L'attentat, qui n'a pas fait de victimes selon l'AFP, survient moins de 10 jours après celui perpétré près du siège d'une compagnie pétrolière à Tripoli et revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Il avait fait un blessé et des dégâts matériels importants. Il faut dire que depuis la chute de Muammar Kadhafi en octobre 2011, la Libye vit dans la violence alors que le pays est partagé entre deux gouvernements et parlements rivaux. Le conflit syrien au centre d'un entretien téléphonique aujourd'hui entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain John Kerry. Washington se montre préoccupé par un possible renforcement militaire russe en Syrie. En fait, les États-Unis ont dit vérifier des informations irrelatives. La Russie est l'un des principaux alliés et défenseurs du régime de Bachar al-Assad. Elle tente depuis plusieurs mois de former une coalition militaire élargie à la Turquie, à l'Arabie Saoudite et à l'armée régulière syrienne pour combattre le groupe extrémiste État islamique. Mais comme le fait remarquer l'AFP, cette initiative ne rencontre pour le moment que peu de soutien. Les États-Unis vont accueillir davantage de réfugiés syriens. La promesse a été faite aujourd'hui par le secrétaire d'État John Kerry après une réunion au Capitole sur le dossier des migrants et des réfugiés en Europe. Depuis 2011, Washington n'a offert l'asile qu'à 1500 Syriens. Depuis donc 2011, Monsieur Kerry dit avoir soulevé la question avec des membres du Congrès qui sont engagés, et tout comme le département d'État, a augmenté le nombre de réfugiés syriens sur le sol américain. Le département d'État a donc promis qu'il y aurait entre 5 000 et 8 000 Syriens réinstallés aux États-Unis à l'automne 2016. Dossier nucléaire iranien, l'accord du 14 juillet, un nouveau supporter à Washington. Il s'agit de la candidate démocrate Hillary Clinton.
« Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.